auditeur du jour, Hervé Guillemot.
Bonjour à tous. Opération de police ce matin à Naples contre la mafia. Ou encore l'armée mobilisée dans la guerre des ordures de la ville. Ou encore coup de projecteur sur la Camorra à Cannes. Bonjour Jacques de Saint-Victor.
Bonjour.
Coup de projecteur, mais autant de coups d'épée dans l'eau contre la mafia.
Bah, disons que ce qui est bien actuellement, c'est qu'il y a une prise de conscience au moins de ce problème. Mm-hmm. Après, la question est de savoir comment on va le résoudre.
On va en parler un petit peu plus longuement avec vous, puisque vous publiez aux éditions du Rocher, Mafia, au pluriel, l'industrie de la peur. Le dossier du jour, dossier bonheur, enfin quête du bonheur, ou carpe diem, pourquoi est-il si difficile d'être heureux? Vaste question et esquisse de réponse avec Caroline Lachowski et le psychosociologue Jacques Salomé en deuxième demi-heure. Carpe diem, vous dis-je. Et puis au sommaire aussi des visiteurs de ce jour, le plus grand ukrainien de tous les temps, les risques liés aux technologies informatiques et enfin ce retour sur une vie sous menace et donc sous surveillance. Retour sur le quotidien de Taslima Nasrin, l'écrivaine bangladaise, était la semaine dernière à Paris, mais son rêve, à défaut de son propre pays, reste de vivre un jour libre en Inde.
I hope that I will be able to go back to India and live there.
Mardi 27 mai, bienvenue à tous sur RFI.
Non jamais, au grand jamais, regardez, est-ce que je tremble? Non jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non jamais, jamais, au grand jamais. Cèdrais-je dans mes bras la place de ma guitare? Non jamais, au grand jamais, regardez, est-ce que je tremble? Non jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non jamais, jamais, au grand jamais. Regardez-moi, est-ce que je tremble? Non jamais, plutôt crever que laisser la vie me descendre. Non jamais, au grand jamais, et achevez-moi si je tremble. Car jamais, au grand jamais, je ne laisserai cette vie me descendre. Non jamais, jamais, jamais. Au grand jamais.
Ben C sur RFI au grand jamais, visiteur au pluriel point jour @RFI.fr et l'on commence par le plus grand ukrainien de tous les temps. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Correspondant RFI à Kiev, les élections se suivent et ne se ressemblent pas forcément dans le pays, quoique, sauf peut-être pour le côté polémique. Polémique en l'occurrence autour d'une émission de télévision historique en Ukraine. Les Ukrainiens étaient récemment appelés à désigner par SMS ou par Internet l'homme qui a le plus marqué l'histoire nationale. Alors on s'en souvient, hein, c'est un concept qui a été lancé par la BBC il y a quelques années déjà, et en France, c'était évidemment le général de Gaulle qui avait été désigné comme le plus grand français de l'histoire. Je referme cette parenthèse. Camille, alors sauf qu'en Ukraine, les choses ne sont pas si simples. L'histoire nationale fait toujours débat dans ce pays ex-soviétique, et les résultats de l'émission ont pour le moins donc fait polémique. And the winner is, comme on disait récemment, Camille, à Cannes.
Alors le plus grand ukrainien de tous les temps, selon l'émission en tout cas, c'est le prince Yaroslav Yaroslav le Sage. Yaroslav, c'est un grand souverain du XIe siècle qui a régné sur ce qui était à l'époque la Rousse, qui est Vienne. On le considère aussi comme le bâtisseur de la ville de Kiev à l'époque de sa grandeur médiévale. Au classement de l'émission, le prince se classe premier devant un médecin illustre, le pionnier de la chirurgie cardiaque, Mykolas Amosov. Et en troisième position, on trouve, et c'est là que ça se complique, le leader nationaliste ukrainien Stepan Bandera.
Aïe, aïe, aïe. Alors, explication, vous dites ça se complique, pourquoi donc ?
Ça se complique parce que Bandera, dans les années 1930, a été l'un des principaux chefs politiques de l'OUN, l'Organisation des Nationalistes Ukrainiens. C'est également lui qui a fondé en 1943 l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne. L'OUN et son bras armé, qui est l'UPA, sont deux organisations qui ont incarné le combat des Ukrainiens pour leur indépendance face à la domination polonaise et surtout face au régime soviétique. Et autant de faits d'armes qui font de Bandera un héros national aux yeux de nombreux Ukrainiens, en particulier à l'époque actuelle, où l'Ukraine indépendante redécouvre son histoire, quitte à la réécrire parfois pour fédérer le sentiment national. Mais le problème à propos de ce Bandera, c'est aussi qu'il est vu comme un personnage très négatif par une bonne partie de la population ici, principalement la partie de la population qui est restée proche de la vision russe, disons même ex-soviétique de l'histoire. L'UPA, c'est une armée de guérilla nationaliste qui était considérée comme l'ennemi public numéro un sous l'URSS. Et pour beaucoup, Bandera, son leader, reste comme un dissident, un terroriste de la pire espèce qui n'aurait pas hésité à s'allier avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre l'armée rouge. On le voit donc, cette période fait débat, toujours aujourd'hui, entre deux versions très antagonistes d'une même histoire. Et cette émission de télévision, le plus grand ukrainien de tous les temps, a remis ce clivage au centre d'une nouvelle polémique.
Oui, on voit un Bandera qui ne fait pas l'unanimité. Et on se pose même des questions sur le déroulement du concours lui-même.
Et oui, en fait, selon des rumeurs qui se sont d'ailleurs confirmées après l'émission, Stepan Bandera aurait dû gagner, aurait dû être le plus grand ukrainien de tous les temps. À quelques jours de la fin des votes, il était largement en tête. Et l'un des producteurs de l'émission a reconnu, après les résultats, que ces résultats avaient été manipulés. Il a personnellement avoué qu'il a envoyé depuis son téléphone portable plus de 1000 SMS de vote pour Yaroslav, histoire d'inverser la tendance. Et de même, les opérateurs téléphoniques ukrainiens ont constaté que les centaines de milliers de votes qui ont fait gagner le prince Yaroslav provenaient de quelques dizaines de téléphones seulement. Alors autant dire que Bandera a été privé de victoire par la production de l'émission. Il est vrai que le concept à peine dissimulé de cette émission, c'est justement de fédérer la population ukrainienne autour d'un personnage historique fort et surtout consensuel. Et pour ça, une victoire de Bandera, qui est très contestée, c'était un peu le pire des scénarios.
Oui, effectivement.
Cette petite histoire, en tout cas, voilà, nous prouve que, même si elle se cherche des héros nationaux, l'Ukraine actuelle a encore du mal à regarder son passé avec sérénité.
Camille Magnard, en direct de Kiev. Excellente journée à vous, merci.
RFI, la radio du monde.
I could be red, blue, black, or white, or blue.
RFI, les visiteurs, John Butler. Les visiteurs, et pardon pour cette liaison et cette illustration un petit peu facile mais efficace tout de même, 47 arrestations, l'équivalent de 80 millions d'euros de biens saisis ce matin au cours d'une vaste opération de police dans la région de Naples. Une opération qui intervient quelques jours seulement après le spectaculaire et très médiatisé Conseil des ministres tenu par Silvio Berlusconi à Naples, même en pleine guerre des ordures, et l'on sait le rôle de la mafia dans ce dossier. Bonjour donc Jacques de Saint-Victoire. Bonjour. De Saint-Victor, pardon. Vous publiez, justement la question de la victoire est importante. Vous publiez Mafia, l'industrie de la peur aux éditions du Rocher. Les suspects arrêtés ce matin sont accusés d'à peu près tout, hein, associations mafieuses, extorsion de fonds, corruption de fonctionnaires, détention illégale d'armes, blanchiment d'argent. Là, c'est ce qui s'est passé ce matin, c'est quoi faire peur à l'industrie de la peur, justement?
Non, c'est-à-dire que on voit en effet que Berlusconi et son gouvernement se sont engagés lors de la campagne électorale à vraiment marquer des points sur la question des ordures à Naples. Pardon. Or, pour réussir à Naples, il faut en effet résoudre le problème de la Camorra, parce que on sait très bien que l'essentiel, si vous voulez, du problème est lié quand même à cette question de la Camorra. Il y a aussi la maladministration classique en Italie, mais une partie importante du problème est liée au fait que la Camorra tire plusieurs milliards par an du traitement illicite des déchets. Donc elle a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas un traitement légal, de nouvelles décharges publiques qui soient créées dans la région de Naples. Par conséquent, il faut... du point de vue à la fois de l'opinion et du point de vue de l'efficacité publique, il faut marquer le coup et arrêter un certain nombre de familles mafieuses, disons, soit parmi les plus représentatives, soit parmi celles qui sont les moins coopératives. Il faut savoir que Naples et sa région est tenue par le centre-gauche et qu'une partie de la Camorra locale est en compromission, non pas comme en Sicile avec la droite berlusconienne traditionnelle, mais plutôt avec le centre-gauche. Donc vous voyez, l'action à Naples est peut-être plus facile, paradoxalement, pour Berlusconi.
Alors c'est tout à fait d'ailleurs passionnant dans votre livre, L'industrie de la peur, parce que vous reprenez véritablement, chronologiquement et historiquement, un peu l'histoire de ces sociétés secrètes. Grosso modo, d'une manière effective, c'est le début du 19e, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est quand il y a eu la mutation radicale et trop rapide en Italie, entre une économie féodale et un passage à une économie capitaliste.
Et vous soulignez que c'est la faiblesse de l'État libéral qui finalement a complètement favorisé le développement de ces sociétés secrètes.
Absolument, absolument. C'est-à-dire que le passage à l'économie capitaliste en France ou en Angleterre s'est fait lentement, et avec un État en France fort, et en Angleterre non pas un État fort, mais une tradition, si vous voulez, sur plusieurs siècles, d'adaptation à la société, disons, libérale, marchande. À Naples, et surtout encore plus en Sicile, la rupture a été assez brutale, et elle a permis à des sociétés secrètes de gagner, de remporter la mise dans un marché qui se libéralisait, où les individus étaient livrés à eux-mêmes. Et bien, ceux qui sont structurés en organisation secrète, eh bien, ils peuvent justement guider cette main invisible qui, tout d'un coup, s'abat sur les gens.
Et vous racontez comment les autorités locales, pactisent, enfin, ou traitent avec les chefs de bande pour... On se répartit l'ordre qui doit régner, on se répartit les classes sociales.
La faiblesse de l'État libéral, en effet, l'a amené, dans certaines circonstances, à pactiser avec les chefs d'une mafia embryonnaire, parce qu'on peut pas encore vraiment là parler de toutes les... ça ne sont pas encore des organisations criminelles qui ont toutes les caractéristiques des mafias, mais elles commencent à apparaître dès les années 1830-1860, et comme vous le savez, c'est un État, l'Italie, qui s'est construit à cette époque-là, donc qui est très faible, qui a en plus des tensions internes entre le Nord et le Sud, parce que c'est le Nord qui, entre guillemets, colonise le Sud, donc il y a une résistance de la part des gens du Sud, et ça va être exploité par les mafias pour apparaître comme étant justement ceux qui protègent le peuple, qui défendent la spécificité sicilienne ou la spécificité napolitaine. Et c'est comme ça que ces organisations secrètes vont vraiment s'enrimer, devenir très très puissantes dans le tissu social populaire. Parce qu'il faut bien le savoir, la mafia, c'est un contrôle du territoire sur, pour l'essentiel, les gens modestes. Aujourd'hui, pourquoi la mafia est très puissante à Naples? C'est parce qu'elle donne du travail.
Elle donne du boulot, et ça c'est
là
c'est
où,
le grand classique.
Avec la crise économique depuis les années 80, il n'y a plus de travail. Vous savez qu'à Naples, 40% des jeunes sont au chômage.
Alors, très forte localement, très forte ensuite internationalement, hein, puisque oui. La mafia devient italienne, devient la mafia italo-américaine. Vous revenez sur même le développement des autres mafias à travers le monde. Et aujourd'hui, on revient à la question cruciale que pose votre livre à travers la mondialisation. C'est est-ce que le libéralisme, la société libérale, aura les moyens d'éviter la domination de l'industrie du crime qui manifestement est partout sur tous les continents?
On peut dire en effet qu'il y a eu une mondialisation du crime avant la mondialisation classique de l'économie dans les années 90. Maintenant, en effet, est-ce que cette société libérale a les moyens de lutter contre ces organisations criminelles devenues très puissantes? Et plus encore, parce que c'est pas, vous savez, Falcone, le juge de célèbre de Sicile,
dont on commémorait d'ailleurs justement le 16e anniversaire de la mort,
assassiné par la mafia sicilienne. Falcone disait, la mafia, en fait, c'est le premier cercle, c'est les premiers cercles de l'enfer. Il comparait ça au cercle de Dante. Le vrai problème, c'est comment ce système perdure. Ces questions des paradis fiscaux, ces questions des comptes offshore, toute cette organisation d'un système capitaliste mondialisé qui donne les moyens, qui favorise, si vous voulez, qui a un facteur criminogène dans ce contexte de la criminalisation internationale.
Ce qui était le cas au niveau, par exemple, de l'Italie au 19e, eh ben, on le retrouve de fait aujourd'hui au niveau de la société mondiale.
Oui, alors, évidemment, il y a des pays, et notamment le nôtre, qui sont pour l'instant un peu plus épargné. Pourquoi? Parce que nous avons un État puissant encore et nous avons des traditions différentes. Mais on le voit très bien, des pays comme l'Espagne par exemple sont passés beaucoup plus sous le contrôle des organisations criminelles, souvent d'ailleurs étrangères, comme par exemple la sicilienne ou la Camorra, la Camorra, la mafia napolitaine, qui surnomme la Costa del Sol la Costa Nostra. Donc il y a des pays qui sont plus sensibles que d'autres, mais il est en effet assez préoccupant de constater qu'il y a une tendance vers un développement de ces organisations criminelles.
Et pour revenir à votre toute première intervention, c'est vrai qu'il y a peut-être une prise de conscience là, un petit peu plus qu'avant, et je fais de nouveau allusion à Gomorra qui a été primé à Cannes.
Oui, ben, on peut espérer, il y a une prise de conscience, il y a eu une prise de conscience au début en 2000 avec une convention internationale qui avait été signée à Palerme dans le cadre de l'ONU, mais ensuite la question du terrorisme est devenue la question numéro un, si vous voulez. Et elle a occulté la question du crime organisé, notamment dans la mobilisation des forces de police. Et aujourd'hui, ben, on peut espérer que, bon, on prenne toujours conscience du problème du terrorisme, mais qu'on prenne aussi conscience d'un phénomène beaucoup plus larvé, beaucoup moins apparent, mais beaucoup plus dangereux en termes de mobilisation, beaucoup plus dangereux, qui est la criminalité organisée, et notamment les mafias, qui sont l'aristocratie de cette criminalité organisée.
Mafia au pluriel, l'industrie de la peur, c'est passionnant. Vous le signez, Jacques de Saint-Victor, aux éditions du Rocher. Merci d'être venu. Les visiteurs du jour, on se retrouve dans 10 minutes pour tout de même essayer de parler du bonheur.